RCF.
Quand on parle de la confiance aujourd'hui, c'est pour dire que les gens l'ont perdue. Ils n'ont plus confiance en leurs banquiers, ne croient plus aux promesses des politiques, doutent de la sincérité de leur patron. Bref, l'heure est plutôt à la défiance et même à la peur. Pourtant, croire en la parole de l'autre constitue un pilier de notre civilisation. Faire confiance est un pari, un risque fondamental sans lequel aucune relation vraie ne pourrait voir le jour. Pour Michela Marzano, il est urgent de redonner à la confiance ses lettres de noblesse. Elle signe chez Grasset un essai intitulé « Le contrat de défiance », livre dans lequel la philosophe décortique subtilement ce qu'est cette fameuse confiance humanisante. Michela Marzano, bonjour.
Bonjour.
Vous ouvrez votre livre en disant que la confiance est le ciment de notre société postmoderne. Et c'est vrai que la défiance est pourtant partout. On sent qu'il y a un délitement de la confiance aujourd'hui.
Oui, c'est d'ailleurs, je crois, un des problèmes les plus importants face auxquels on se trouve aujourd'hui, parce que les gens ont plutôt tendance à ne pas faire confiance aux autres, donc à se refermer sur eux-mêmes, à avoir peur, à être défiant, et à force de ne pas essayer de faire cet effort de confiance, parce qu'on le verra tout à l'heure, faire confiance, c'est aussi un effort. Mais à force de ne pas vouloir les faire ou de ne pas pouvoir les faire, ils ont tendance à ne plus croire au futur, à ne plus pouvoir avoir envie de construire un lien avec l'autre et à ne plus faire en sorte que ces liens, qui est les liens de confiance, puissent leur permettre de bâtir une société où chacun puisse aussi s'épanouir.
Cette confiance, elle était davantage là dans les sociétés traditionnelles. Vous en parlez au début du livre.
Bon, d'abord, une petite prémisse. Sans confiance, il n'y a pas de société. C'est-à-dire, quand j'ai dit que c'est un ciment de la société, c'est parce que s'il n'y avait même pas un minimum de confiance, il serait impossible, ne serait-ce que s'élever les matins, sortir, acheter du pain, manger, rentrer. Il y aurait un véritable problème. Par exemple, en détail, ces matins, si j'avais pas confiance dans le fait que les transports en commun fonctionnaient, je serais pas sortie, je ne serais même pas arrivée à la radio. Alors, c'est un détail banal, mais ça montre l'importance de cette confiance-là. Cela dit, la confiance, donc, qui est un ciment de la société, c'est aussi quelque chose qui évolue dans les temps. C'est-à-dire, jadis, on était dans une société bâti à partir de la notion d'honneur. Donc, on était dans une société plutôt traditionnelle où il y avait une notion reconnue d'autorité et du coup, la confiance, elle pouvait se bâtir à partir du fait que quand j'ai donné ma propre parole, il y avait un garant de ma parole, les garants de la parole donnée. Par exemple, Dieu. Dieu était les garants de la parole donnée et les représentants de Dieu sur terre étaient là pour faire en sorte que cette parole soit respectée aussi.
Donc c'était la parole avec l'honneur qu'il y avait autour de sa propre parole.
Absolument. Alors après, avec les changements des paradigmes, donc l'effet qu'on est arrivé dans une société plutôt individualiste, avec la fin de la société traditionnelle, il y a eu évidemment un véritable tremblement de terre, parce que la parole donnée ne faisait plus référence à une altérité et donc à une autorité supérieure, mais chacun devait pouvoir devenir garant de sa propre parole. Mais comment puis-je me fier à quelqu'un qui n'a pas un garant au-delà de lui et qui donc peut me trahir? Et donc toute la difficulté aujourd'hui, c'est essayer de redonner de l'importance à la confiance, parce que même si il n'y a pas cette autorité, au moins il n'y a pas pour tout le monde cette autorité garant de la parole donnée, il faut aussi faire en sorte qu'on puisse bâtir cette société-là, qu'on puisse se fier aux autres et qu'on puisse aussi se laisser aller à l'inconnu qui est le propre de la rencontre.
Alors aujourd'hui, justement, vous décrivez ça bien, dans notre monde, on a du mal à accepter cette part d'inconnu hein, qui est obligatoire quand on fait confiance. On ne sait pas, on prend un risque.
Absolument, parce qu'en fait, dans notre société, justement, parce qu'il n'y a plus cette place qui est donnée à la confiance, c'est une société où on a de plus en plus tendance à passer par la voie contractuelle.
Donc, le contrat.
Les contrats. Donc, on contractualise toutes sortes de relations. Il suffit de penser à la relation entre malade et médecin. On passe par un contrat, on signe un formulaire, les formulaires du consentement, et comme ça, on est garanti du fait que si le médecin ne va pas faire son travail, on pourra probablement lui faire passer un procès, donc arriver en justice, etc. Mais aussi dans les relations interpersonnelles. Il y a cette tendance, voire même cette mode à se référer au modèle aux États-Unis où il y a les contrats des mariages où on prévoit déjà à l'avance la fin du rapport. Et donc, il y a plein de clauses qui sont là pour nous garantir si l'autre va partir, qu'est-ce que nous allons pouvoir en tirer de cette relation-là. Or, à chaque fois que l'on passe par un contrat, c'est bien la preuve qu'on ne fait pas confiance. Mais en même temps, c'est parce qu'on ne fait pas confiance qu'il y a probablement ces problèmes au niveau des relations interpersonnelles.
Pourquoi ?
Parce que ce n'est qu'à partir du moment où j'ai fait confiance, donc j'ai lâché prise, donc je n'essaye pas de prévoir absolument tout ce qui va arriver, donc je n'essaye pas de contrôler l'autre, qu'à ce moment-là, j'ouvre aussi la possibilité à l'autre d'aller retrouver chez moi une partie importante, une partie d'intimité, que j'ouvre la possibilité aussi de pouvoir établir quelque chose, de pouvoir créer, de pouvoir engendrer quelque chose sans que tout soit prévu à l'avance et de pouvoir faire en sorte qu'en bricolant, parce que dans les relations humaines, on ne fait que bricoler, mais qu'en bricolant, on puisse bâtir la cellule même de la société, c'est-à-dire une famille, un lien intersubjectif fort qui permet d'engendrer quelque chose de différent. Mais pour pouvoir le faire, parce que c'est là le propre de la confiance. Il faut faire un pari. C'est-à-dire, à chaque fois que je fais confiance, je fais un pari dans l'autre. C'est-à-dire, j'ai tendance à sauter dans quoi ? Sauter dans l'inconnu. C'est d'ailleurs quelque chose de très caractéristique de la confiance qui fait aussi qu'on peut établir un lien entre confiance et foi. C'est l'effet justement de sauter. L'effet de ne pas savoir à l'avance ce qui va pouvoir arriver.
Mais justement, aujourd'hui, on veut tout savoir, on veut tout calculer, les risques sur le plan économique, politique, mais aussi individuel. Vous parliez du mariage, on veut pas de risques, le moins de risques possible.
C'est vrai, sauf que c'est un piège, parce qu'à force de vouloir tout contrôler, tout nous échappe. La relation humaine, par définition, c'est pas quelque chose de contrôlable. C'est-à-dire, on se découvre et on découvre l'autre au fur et à mesure que le temps passe. Bien évidemment, il faut pas non plus faire confiance au premier venu. C'est-à-dire, si je rencontre quelqu'un, il s'agit pas de lui donner tout de suite une pleine confiance, une confiance aveugle.
Mais vous dites ça dans votre livre, hein. Oui. La confiance, c'est pas la confiance aveugle.
Non. C'est-à-dire, la confiance, alors, la chose compliquée, c'est que la confiance, c'est une sorte de concept qui est à mi-chemin entre d'une part la confiance aveugle, voire même la foi, et d'autre part les contrats. C'est-à-dire, c'est une forme de foi humaine, c'est-à-dire la foi que je peux avoir en l'autre, tout en sachant que l'autre doit pouvoir faire preuve d'une certaine forme de fiabilité, mais en même temps, cette fiabilité ne suffit pas à expliquer la confiance. C'est un peu comme dans les cas de l'amour. On dit souvent, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Parce qu'évidemment, si on croit que l'amour ne doit pas s'appuyer sur des faits, on a tendance aussi à se leurrer. Mais en même temps, qu'est-ce que ce serait un amour s'il n'était qu'une somme d'épreuves ? Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Il faut qu'il y ait quelque chose de non contrôlable, de non maîtrisable, parce que c'est ça qui fait la richesse de la rencontre humaine.
Repère RCF.
Michela Marzano, vous parlez de la confiance dans votre dernier livre et vous décortiquez un peu ce qui se joue au cœur de cette relation de confiance. Vous remontez à l'enfance parce que vous dites que la relation première entre enfant et parent explique beaucoup de choses dans notre manière de vivre la confiance.
Alors, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Parce que quand tout à l'heure je disais il faut essayer de faire ces paris de confiance, c'est vrai aussi qu'il faut pouvoir s'appuyer sur un noyau dur. C'est-à-dire un minimum de confiance en soi qui puisse aussi permettre, par exemple, de rebondir face à une trahison. Alors, c'est quoi ces noyaux durs ? Eh bien, c'est exactement ce que l'enfant apprend peu à peu, en étant en contact avec ses parents, lorsqu'il commence à comprendre qu'il peut se tenir tout seul. Ça, c'est quelque chose que Winnicott explique très bien.
Donc, il était un psychopédiatre
qui a bien travaillé sur les relations entre les enfants quand ils sont tout petits et les parents, et qu'il a bien montré que l'enfant commence à grandir, il commence à devenir autonome à partir du moment où il commence à comprendre qu'il peut se tenir tout seul. C'est-à-dire qu'il n'est pas en danger si sa mère n'est pas là parce qu'il commence à comprendre que sa mère continue à l'aimer même si elle n'est pas tout le temps présente.
Et c'est ça la relation de confiance ?
Alors ça c'est une relation de confiance, absolument. Parce qu'on n'a pas besoin que l'autre soit tout le temps là ou soit tout le temps capable de nous donner des preuves concrètes pour qu'on puisse faire confiance. Mais en même temps, il faut pouvoir savoir que l'autre pense à nous même s'il n'est pas à notre présence. C'est un peu comme justement dans les rapports avec la mère. L'enfant grandit Et il s'est fait confiance lui-même et il commence à démarrer et à bâtir un projet de vie parce qu'il sait qu'il y a l'amour de sa mère qui est là, même si sa mère n'est pas, et d'ailleurs ne doit pas être tout le temps là pour permettre effectivement à l'enfant de grandir. Eh bien, dans les rapports amoureux, on reproduit quelque part les mêmes modèles. C'est-à-dire, dans un rapport amoureux, on a besoin d'avoir une partie de solidité, c'est-à-dire une partie d'autonomie. Il faut pouvoir ne pas dépendre complètement de l'autre, mais en même temps, il faut aussi accepter la nécessité de dépendre en partie de l'autre. Quand on aime, on dépend de son regard, on dépend de sa parole, on dépend de ses attentions. Mais cette dépendance-là ne peut pas être totale. Et c'est dans le jeu qui s'est créé entre autonomie et dépendance qui surgit la confiance et qui permet effectivement de bâtir une relation riche.
Et cette confiance expérimentée dans l'enfance va se rejouer à tous les étages de la vie, plus tard. Si on a pu croire en la présence de l'autre malgré l'absence, on va réussir à faire confiance aux autres.
On va réussir à faire confiance aux autres, évidemment. Alors, tous les problèmes, c'est que pour les enfants qui ont eu une histoire de trahison, qui ont été abandonnés, dont la confiance, effectivement, a été trahie même par leurs parents, après, ce sera extrêmement difficile d'arriver à nouveau à s'ouvrir aux autres. Sauf que là, il y a aussi la possibilité de reconstruire un rapport de soi à soi. Il y a des parcours qui aident effectivement à pouvoir à nouveau trouver une partie solide chez soi pour s'ouvrir à nouveau. Sans tomber dans les pièges de ne vouloir jamais faire confiance aux autres, parce que quand on ne fait jamais confiance aux autres, on reste dans une solitude souvent mortifère. Et ou, au contraire, mais qui revient nous-mêmes, faire tout de suite confiance immédiatement tout en sachant que la trahison va arriver. Et donc finalement, on se retrouve dans un piège infernal parce qu'on n'arrive pas à bâtir de façon positive une relation à l'autre, qui soit une relation qui permette de donner une place aux deux sujets en partie entière, c'est-à-dire chacun doit pouvoir être sujet de son propre désir et en même temps objet du désir de l'autre par les biais de cette confiance qui fait que les sentiments circulent.
Michela Marzano, vous écrivez « Avoir confiance, c'est admettre la possibilité du changement, de la trahison, du revirement ». Donc la confiance véritable, ça intègre la possibilité de l'échec.
Ça intègre tout à fait la possibilité de l'échec. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est justement ceux en qui nous avons confiance qui peuvent nous trahir parce que nous leur faisons confiance. Donc la trahison est au cœur même de la relation de confiance. Mais, parce qu'il y a toujours un mais à partir du moment où il y a cette relation de confiance, il faut aussi intégrer la possibilité de se tromper soi-même. Donc, c'est quelque chose qui redonne de la vie au désir individuel. Or, les désirs, c'est ce qui nous rend vivants. C'est parce que j'ai désir et parce que je dois aussi admettre des virements et des changements de mon propre désir que j'accepte la finitude et la fragilité de ma propre condition. Et donc, j'accepte effectivement de pouvoir changer, tout en sachant qu'évidemment, dans les changements, il ne faut pas non plus blesser l'autre et donc tomber dans une forme d'abus de confiance qui consisterait à les manipuler.
Ce qui arrive.
Ce qui arrive. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la confiance, elle est fondamentale, mais il faut faire attention à ne pas glisser dans une forme de confiance aveugle, qui est d'ailleurs cette sorte de confiance dont abusent par exemple les gourous d'une secte. Les gourous d'une secte abusent de cette confiance totale parce qu'ils vident les personnes de leur propre subjectivité. Donc, au fond, il y a une seule, disons, personne, entre guillemets, en qui on peut, en principe, avoir une confiance totale. C'est Dieu. Pour un croyant, Dieu est toujours fiable. Mais les êtres humains ne sont pas tout puissantes. Elles peuvent se tromper. D'ailleurs, c'est ça qui fait l'humanité et la fragilité de la condition humaine. Donc, la confiance qu'il faut accorder ne peut jamais être complètement totale parce que la totalité de la confiance amène aussi cette possibilité d'une manipulation profonde.
Mais vous le dites ça justement, Michela Marzano, dans votre livre, qu'il faut renoncer à l'attente d'une confiance qui serait absolue, sans faille, parce que ça, c'est pas l'humanité. Et que quand on fait confiance, on prend un risque parce que l'autre en face est fragile.
Absolument, mais surtout parce que vouloir croire à la possibilité d'une confiance totale signifierait aussi se refermer à l'intérieur de quelque chose d'extrêmement étouffant. Il suffit de penser au très beau roman Belle du Seigneur. Dans ces romans-là, il y a une relation qui est complètement étouffante parce qu'on cherche à obtenir tout à l'intérieur de la relation. C'est-à-dire, on prend les deux personnages clés, les deux amants, et chacun considère que l'autre est son tout. Or, l'autre n'est jamais le tout pour quelqu'un. L'autre est une partie de sa propre vie. L'autre nous ouvre des infinis qu'on peut découvrir avec lui. L'autre nous accompagne dans la découverte et dans la traversée de notre propre manque. Comme disait Camille Claudel dans une lettre très belle à Rodin, il disait « Il y a toujours quelque chose d'absent qui me persécute. » Alors c'est quoi c'est quelque chose d'absent? C'est le signe de la fragilité humaine. Et c'est quelque chose d'absent qui nous pousse à aller à la rencontre de l'autre ne doit pas devenir un piège qui consisterait à croire que l'autre peut nous combler complètement. Avec l'autre, on peut traverser ses manques, mais l'autre ne peut pas être là pour tout combler parce que ce serait quelque chose d'étouffant.
Repère, Béatrice Soltner.
Nous parlons de la confiance avec vous, Michaela Marzano. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un essai paru chez Grasset, Le contrat de défiance. Vous parliez de la fragilité que nous avons tous. Hein. Nous sommes tous limités, vulnérables. Quand on fait confiance, il faut s'ouvrir à cette vulnérabilité. C'est inhérent à la relation de confiance.
C'est inhérent à la relation de confiance. Ce qui fait aussi que la confiance est quelque chose, moi je dirais aussi, de dangereux. Parce qu'à partir du moment où je fais confiance, évidemment, je me rends vulnérable vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, j'ouvre la possibilité à l'autre non seulement de rentrer à l'intérieur de moi, de mon intimité, mais j'ouvre aussi la possibilité à l'autre de pouvoir éventuellement trahir la confiance que je lui fais.
Donc c'est un risque.
Mais en même temps, moi j'aurais tendance à dire qu'est-ce que ce serait une vie sans prendre ne serait-ce que les risques de rencontrer l'autre. C'est-à-dire, évidemment, il ne faut pas être dans une forme d'inconscience, donc prendre des risques tout le temps. Par exemple, quand je gère ou j'essaie de gérer mon argent, évidemment qu'il faut que je fasse des choix, il faut que je puisse compter, par exemple, sur mon banquier et donc non pas avoir une confiance qui consisterait à me rendre vulnérable. Mais là, on est dans un niveau des rapports, disons, sociaux, dans un genre de rapports économiques où, effectivement, on peut essayer de calculer. Donc, on est dans une relation donnant-donnant ou gagnant-gagnant. Dans les relations humaines, on change de registre. On n'est plus sur un registre gagnant-gagnant ou donnant-donnant. On sort du registre du marché. On n'est plus dans un niveau économique. On est dans une logique beaucoup plus asymétrique, qui est la logique du don. C'est-à-dire, je donne ma confiance et à partir du moment où je donne ma confiance, je ne peux pas prétendre que l'autre soit là tout le temps prêt à répondre à cette confiance donnée. C'est un peu comme quand je donne mon amour. Je ne peux pas prétendre que l'autre personne m'aime en retour. Il n'y a pas cette logique symétrique. Il y a une asymétrie fondamentale.
Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que vous prenez l'exemple économique. Aujourd'hui, on veut une sécurité partout. On veut être sécurisé dans nos placements. On veut être sécurisé dans l'argent qu'on investit quelque part. Et ça arrive dans les relations humaines. Ça déteint dans les modèles de famille, de couple.
Absolument, vous avez parfaitement raison, mais parce que, alors là, le problème est complexe, parce que d'un point de vue économique, c'est vrai qu'avec la crise, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande tromperie, c'est-à-dire beaucoup de choses ont été dites pour faire en sorte que la confiance leur soit donnée au système économique, au système financier, avec derrière des prises de risques énormes de la part des banques. Donc, à partir de là, il y a un climat de défiance qu'effectivement, il faut pouvoir déconstruire parce qu'il faut là aussi que la confiance puisse revenir à nouveau pour que l'économie redémarre. Mais on est sur un niveau économique. Les pièges et croire que cette même solidité-là d'un système, on puisse aussi les traduire au niveau des relations intersubjectives. Dans les relations humaines, on ne doit pas chercher une relation sans risque. Parce qu'une relation sans risque, c'est une relation qui ne bouge pas.
Est morte?
C'est une relation qui est morte, moi j'aurais tendance à dire. Parce que c'est une relation qui ne permet pas une évolution, qui ne permet pas un changement. Prenons les cas des deux personnes qui se connaissent quand elles sont adolescentes. Ils commencent une histoire d'amour. C'est magnifique. On espère d'ailleurs que cette histoire puisse durer jusqu'à la fin de leur vie. Mais pour que cette relation puisse durer, il faut pouvoir intégrer la possibilité des changements et il faut aussi pouvoir intégrer la possibilité de l'erreur. Il faut pouvoir accepter que l'autre puisse chuter à un moment ou l'autre, que l'autre puisse ne pas être tout le temps là pour nous.
Et c'est là où la confiance intervient.
Pour combler ces manques-là, qui est les manques qui caractérisent les rapports humains. C'est-à-dire, on ne peut pas être complètement sécurisé, parce que si on l'était, on ne permettrait pas au désir de pouvoir donner de la chair à cette relation qui est la nôtre.
Donc, il y a toujours un risque à aimer et à se donner et à recevoir le don de l'autre.
Il y a un risque énorme. Je crois que c'est le risque par excellence, le risque de l'amour. Mais en même temps, si on ne prend pas ces risques-là, qu'est-ce que peut-on bien faire de sa propre vie? Alors, peut-être que je parais un peu excessive, mais je crois que si on ne prend pas au sérieux ces risques-là, si on ne prend pas, comment dire, si on décide de ne pas s'ouvrir à l'autre, de ne pas faire confiance, de ne pas sauter dans l'inconnu, eh bien, je crois qu'on passe, on risque de passer à côté de sa propre vie parce qu'on risque de passer à côté de l'inconnu, de l'amour et des relations humaines.
Mais je pensais, en vous écoutant, au risque de l'avenir. C'est aussi un risque, cet avenir dont on ne sait rien, incertain. Et ces jeunes qui manifestaient il y a quelques mois par rapport à leur avenir, leur retraite, dans 50, 60 ans, et comme si ça les paralysait déjà. Vous analysez ça, vous?
Je crois que là, c'est symptomatique d'une société paralysée, effectivement, par la peur et par la défiance. Et ces symptômes-là, on les retrouve effectivement chez les jeunes qui considèrent que du coup, ils n'ont aucun espoir dans le futur. Et donc, c'est à nous, les adultes, de leur redonner confiance en leurs propres moyens, en leur redonner espoir et leur redonner confiance aussi dans la possibilité de changer le futur, tout en apprenant aux jeunes aussi que croire en leur propre futur signifie aussi risquer. Et là, il y a eu quelque chose qui a coincé dans l'éducation aussi. C'est comme si on voulait promettre un avenir où tout était prévu à l'avance. Or, on ne peut pas tout prévoir. Évidemment, il faut travailler pour que les conditions puissent s'améliorer, mais il faut toujours engager sa propre vie, son propre désir et son propre risque pour faire en sorte que les choses changent.
Et alors, pour ceux qui, vraiment, pour lesquels c'est impossible de faire confiance, comment démarrer, comment retrouver un élan qui n'a peut-être pas souvent existé?
Alors, évidemment, ça dépend après du niveau et du degré. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui sont complètement fermés, on ne peut pas non plus les obliger. Il ne s'agit pas non plus d'obliger quelqu'un à faire confiance. Mais il s'agit de leur permettre de comprendre ce qu'ils pourront gagner. C'est-à-dire, moi, je crois que dans les cas de la confiance, comme dans tout pari, il ne s'agit pas d'un pari de quitte ou double. On ne perd pas tout si on fait confiance. Évidemment, on peut être trahi, on peut être trompé, ça, il faut les reconnaître. Mais en même temps, je crois qu'il faut essayer de leur expliquer que même si l'on est trahi, on a quand même gagné. Parce qu'on a gagné la possibilité et la certitude de savoir qu'on a eu cette capacité-là, on a eu la force de s'ouvrir à l'autre et que donc on pourra par la suite rencontrer d'autres gens et s'ouvrir à eux et construire avec eux quelque chose ensemble.
Comment les parents peuvent aider l'enfant à rentrer dans cette démarche-là?
Alors là, évidemment, ça c'est différent et c'est fondamental. Alors les parents, ils ont un énorme pouvoir, entre guillemets, sur les enfants, dans le sens où c'est fondamental l'attitude qu'eux ont vis-à-vis de leurs enfants. Donc il faut que les parents puissent faire confiance aux enfants, c'est-à-dire puissent leur donner les moyens de pouvoir petit à petit grandir et bâtir leur propre vie. Il s'agit au fond de sortir d'un piège aussi que notre société connaît, c'est-à-dire l'envie de vouloir protéger à tout prix son propre enfant, qui relève de quoi finalement? D'une sorte de rapport de possession.
Mon enfant, fusion.
Une fusion, mais aussi possession. Je vais les protéger parce que c'est mon objet à moi. Eh bien, je pense que pour pouvoir donner confiance à ses enfants, il faut les reconnaître comme étant des individus distants de soi, comme n'étant pas des choses à soi, mais comme étant des créatures capables de grandir, qui peuvent d'ailleurs aussi se tromper dans leur vie, dans leur chemin, mais qui ont cette possibilité d'engendrer quelque chose d'autre. Ils sont séparés de nous. Nous, les parents, nous avons fait notre chemin, mais eux, ils doivent pouvoir démarrer leur propre chemin en sachant qu'ils peuvent avoir en eux les ressources qui vont leur permettre de bâtir leur propre futur.
Donc le regard des parents est fondamental sur cet acte de confiance.
C'est fondamental parce que c'est le point de départ. Un regard aimant, les regards du mère qui voit dans son enfant l'espoir du futur, c'est quelque chose qui va permettre à cette personne de pouvoir s'inscrire dans son propre futur. C'est, moi je dirais, les points de départ fondamentaux. S'il n'y a pas ces regards-là, s'il n'y a pas la capacité de la part de la mère de regarder avec confiance son enfant, pour lui communiquer une confiance et pour lui communiquer aussi la certitude qu'en dépit de tout, il va pouvoir faire quelque chose de sa vie, eh bien, il sera extrêmement difficile par la suite pour cette personne de pouvoir démarrer dans la vie. Mais en même temps, je pense que ce n'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire, il suffit pour un parent de savoir que l'autre est une personne à part entière et qui, même s'il est fragile parce qu'il est tout petit, il a en soi les ressources nécessaires qui vont lui permettre de bâtir sa vie.
Voilà, c'est une question de confiance, justement, de la mère en l'enfant, en la capacité qu'il a de rebondir.
Absolument. Mais je pense que sur ces points-là, si on ne peut pas obliger les gens à faire confiance, je pense qu'il faudrait essayer de convaincre les parents vraiment à donner cette confiance à leur enfant, à les rouvrir en espoir et à les aimer, mais pas d'une façon fusionnelle, à les aimer en tant que personne, à les aimer en tant que ceux qui pourront bâtir leur propre vie, indépendamment de ce que les parents ont fait de leur propre vie à eux.
Merci à vous, Michaela Marzano. Je recommande la lecture de votre essai paru chez Grasset. Ça s'appelle « Le contrat de défiance ». On y parle beaucoup de confiance. Merci à Pierre-Henri Paget pour la mise en onde de cette émission.